L'écrivain Georges Perec a identifié quatre types d'écriture. L'écriture du réel, l'écriture de l'imaginaire, le souvenir et l'écriture ludique. Michel Théron, chroniqueur sur FM+, agrégé de lettres, écrivain, propose dans son dernier livre, Marge du livre Fiction biblique, des brèves, des courtes histoires écrites à partir de son observation du réel auquel il associe un texte biblique. Nous allons certainement revenir là-dessus. Bonjour Michel Théron.
Bonjour Guylaine, bonjour à tous.
Alors Michel Théron, dans ce livre, Marge du livre Fiction biblique, contrairement au travail de la prédication, de la méditation théologique, vous nous proposez d'abord votre texte, votre imaginaire, votre production propre, votre très court texte, puis le verset biblique auquel vous le rapportez.
Voilà, donc j'ai choisi cette présentation puisque je ne fais pas de prédication, pas du tout, je ne fais pas d'exégèse non plus, je fais des textes littéraires, poétiques, sensibles, à partir de cette Bible qui a éveillé des échos en moi, des résonances. On dit que la Bible est un livre inspiré. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il me semble que l'important est qu'elle nous inspire nous-mêmes, qu'elle nous inspire des choses et qu'elle nous fasse, qu'elle alimente justement les scénarios de vie que nous connaissons dans l'existence. En sorte que l'épigraphe de ce livre, c'est les textes sont comme des désirs ou comme des trains, chacun peut en cacher un autre. Il me semble, en bon littéraire, en littéraire du moins, que il n'y a pas de texte inouï, que chaque texte répond à un texte antérieur et ne fait que dialoguer avec lui. C'est ce que l'on appelle chez nous, chez les littéraires, l'intertextualité. Les textes se citent eux-mêmes, se renvoient les uns aux autres. Regardez par exemple les essais de Montaigne, chaque page renvoie aux sages antiques, Sénèque ou Platon, les autres, vous voyez. Donc il n'y a pas justement de texte sans mémoire.
Vous l'expliquez aussi très bien dans votre avant-propos, en effet, Michel Théron. Mais j'aimerais continuer en vous disant que, à l'instar de Georges Perec, vous vous êtes donné une contrainte d'écriture. Vous insérez dans votre texte un passage de quelques mots du verset biblique que vous proposez en référence à la fin de votre propre texte. Est-ce que c'est vraiment une contrainte
c'est pas une contrainte.
Une contrainte au sens de travail d'écriture. Hein.
Voilà, je pense que nous avançons dans la vie avec des préfigurations, des modélisations antérieures qui sont.
Mais ceci dit, vous allez au-delà de ça, parce que vous, vraiment dans chacun de vos textes, vous utilisez, par exemple, dans le Misanthrope confondu, un texte que j'ai sélectionné, vous citez « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent », et cela étant une citation de Marc 8. Donc voilà, oui. Vous insérez dans votre texte des morceaux, des courts textes du verset biblique.
Bien sûr. Alors, on peut m'objecter l'absence d'originalité de mon texte. Ce n'est pas. Lorsqu'on joue au jeu de pommes, c'est Pascal qui le dit. Hein, on joue toujours avec la même balle, mais l'essentiel est de savoir placer la balle où on la met. Hein. Donc, nous travaillons avec des matériaux antérieurs. La Bible elle-même, Guylaine, elle ne fait que prenez par exemple le Nouveau Testament. Elle ne fait que citer le Premier Testament, où le rédacteur, mettons évangélique, voit justement dans les textes du Premier Testament des préfigurations, des figures justement de ce qu'il va écrire lui-même. Alors il procède selon la technique que les Juifs connaissent bien, la technique du Midrash, c'est-à-dire une citation exégétique. Hein. Ça c'est un terme hébreu, mais si je prends l'équivalent en grec, c'est le palimpseste, hein, c'est-à-dire la réécriture. Un palimpseste, c'est un vieux manuscrit que l'on a regratté, c'est ça le sens de palimpseste, pour écrire dessus un nouveau texte, parce que les manuscrits étaient très précieux à l'époque, vous voyez. voyez. Donc, le palimpseste ou le midrash atteste l'idée, justement, qu'un texte ne fait que trouver, au sens latin, innuenire, trouver, hein, des choses, d'inventer, trouver dans des textes antérieurs sa propre direction. Alors, le problème, vous voyez, Guylaine, que je me pose, c'est que les institutions ecclésiales qui s'appuient sur cette Bible qui est autocitationnelle, hein, peuvent trouver, froncer le sourcil, par exemple, devant mon livre, et trouver que l'on n'a pas le droit aujourd'hui, justement. Alors, je vous vois aussi hocher la tête.
Non, pas du tout, pas du tout. Œuvre de création littéraire.
Oui, c'est une œuvre de création, mais enfin, par exemple, l'Église, bon, moi je viens d'un milieu catholique, l'Église catholique a toujours décrété hérétique les tropistes, c'est-à-dire ceux qui expliquaient justement les textes bibliques au moyen de figures, des tropes, tropoi, tour, un tour en grec. Hein.
Mais est-ce que vous, c'est votre intention d'expliquer le texte biblique?
Ah non, absolument pas.
Ah voilà.
Je ne fais pas d'exégèse. Mais enfin, je termine mon idée, c'est que l'Église est peut-être, l'Église que je connais de mon origine, hein, est peut-être mal fondée à critiquer les tropistes qui interprétaient les textes bibliques par voie de symbole, par voie de figuration, alors qu'elle-même n'a fait que, justement, utiliser la méthode de figuration par sa relecture, mettons, du Premier Testament. Par exemple, lorsque Isaac porte sur ses épaules le bois qui va servir au sacrifice, eh bien, on y a vu une préfiguration, un trope de Jésus portant sa croix, vous voyez. Donc, voilà, alors, là, je dirais, l'Église a dit deux poids, deux mesures. Ce que j'ai fait, surtout, ne le faites pas, hein, n'interprétez pas symboliquement les choses, alors qu'elle-même les a interprétées symboliquement.
Alors, Michel Thérault, c'est vrai que j'ai plutôt lu votre texte comme un texte littéraire, une création qui, pour moi, est tout à fait intéressante et originale, et je me suis demandé si l'indice, ce verset biblique qu'on repère très facilement dans vos textes parce qu'il est écrit en italique, il est imprimé en italique, ressemble pour moi à la mise en scène d'une devinette. J'écris un texte, devinez quelle a été mon inspiration. Ou encore, à quoi est-ce que ce texte-là, et on va le voir dans les détails tout à l'heure, fait référence bibliquement. Alors je me suis demandé, Michel Thérault, comment s'est passé votre processus créatif? Est-ce que l'anecdote vécue, entendue, que vous relatez, des petites scènes de la vie quotidienne que vous nous livrez, vous a fait penser à un passage biblique, ou est-ce l'inverse? Ou est-ce en lisant votre Bible que vous avez fait le rapprochement entre une scène?
C'est plutôt le premier cas qui s'est produit. Par exemple, j'ai vu dans un jardin public, mettons l'esplanade à Montpellier, une mère qui rudoyait son enfant qui était tombé, et cet enfant avait sali son vêtement, et la mère l'a traité très rudement. Alors, il m'est venu, quand j'étais sur un banc, je regardais cela,
ce
et puis
texte, ce voilà, sont ce les, texte. Massacres, les massacres,
les massacres ordinaires.
Ordinaires.
Et cela m'a fait penser, alors effectivement, au massacre des innocents. Lorsque Hérode fait tuer tous les petits-enfants, vous voyez. Donc là, il y a au départ une scène vécue. Hein. Pareillement, j'évoque une scène amoureuse, hein, où une femme dit à son amant « Je te ferai perdre la tête ». Bon, cette expression « Je te ferai perdre la tête » en moi a fait un déclic, et j'ai pensé à Salomé dansant devant Hérode et puis demandant la tête sur un plan d'argent, la tête de Jean-Baptiste, vous voyez. Donc, j'ai pris au sens figuré ce qui, dans le texte biblique, était au sens propre. Donc, ce marge du livre, ils sont écrits en marge du livre ou à l'ombre de la Bible. Alors, initialement, ça s'appelait à l'ombre de la Bible, la première version chez Goliath, mais enfin, on m'a dit, il ne faut pas employer ce terme parce que ça signifierait que la Bible nous fait de l'ombre. Vous voyez, Guylaine?
Quand même.
Oui, voilà. Donc, alors, bon, j'ai dit marge du livre, c'est écrit en marge du livre, mais à l'origine, il y a des scènes vécues. Aussi parfois des scènes imaginées sous forme de dialogue, hein. Ce sont des fictions.
Voilà.
Mais ces fictions sont instituantes. C'est pas parce qu'une chose est une fiction qu'elle n'a pas valeur ordonnatrice pour la conduite. Fictif, ça veut pas dire non réel, sûrement pas.
On est d'accord. Alors dans vos courts textes, justement, dans ces courts textes qui annoncent le verset biblique, il y a, vous venez un peu de l'évoquer, il y a différents procédés d'écriture. Par exemple, j'ai retenu dans les précautions inutiles, et je voudrais juste montrer à l'auditeur, à l'auditrice, comment ça commence. Ainsi, voilà, j'ai tout bien préparé. D'abord, faire le point sur soi-même, y voir clair, me ménager du temps, enfin, pour moi. Alors, on est là sur, finalement, la retranscription d'un dialogue intérieur. Ailleurs, comme vous le disiez, vous avez fait un récit d'une scène. Ailleurs encore, vous avez fait un dialogue. Ici, vous avez comme ça cherché, je ne sais pas si vous avez cherché à le faire, mais c'est ma question, est-ce que vous avez cherché à utiliser les différents procédés littéraires ?
Absolument. Oui, oui, là, il s'agit d'un monologue intérieur,
oui,
hein,
oui.
D'un personnage qui, justement, ayant acquis de la richesse, se demande comment il va l'augmenter, et après, une petite voix lui suggère, insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie, qui est un passage de l'Évangile qui est assez terrifiant. À quoi sert, justement, de s'enrichir pour devenir le plus riche du cimetière ? Un linceul n'a pas de poche, hein, Guylaine. Bon, donc, cela ne sert à rien. Ça, c'est une fiction. J'ai imaginé ce monologue. Pareillement, justement, il y a le monologue d'un fasciste, hein, qui s'éclaire d'une relation au livre de Jonas, hein, où là, je dis des horreurs. Je ne sais pas si ça vous a choqué, Guylaine.
Non, c'est pas choqué. Lequel est
Le monologue d'un fasciste.
Genèse d'un
fasciste, oui. Alors là, j'ai dit des horreurs. Mais vous savez, en littérature, Guylaine, il y a ce qu'on appelle le discours intenable. Hein. C'est-à-dire, on peut tout dire en littérature. Ce n'est pas du tout une langue de bois. Hein. Et donc, voilà comment ça commence. Vraiment, cette ville est pourrie. Tous des larves pleines de feignants, d'assistés, de prêts à mordre et d'enfants gâtés. De mon temps, on n'aurait pas admis tout ça. Il faudrait un bon coup de balai pour éliminer toute cette racaille. Et tu vas voir qu'il s'en trouvera encore pour fermer les yeux, pour pardonner. Et celles-là, avec leurs jupes si courtes, leur nombril à l'air, de vrais appels au viol, qu'il arrive, ce sera bien fait. Vous voyez, donc là, je me mets dans la peau, justement, de quelqu'un qui, verrait, justement, dans la rue, comme dans Taxi Driver, hein, le film de Scorsese, hein, se déchaîner, l'immoralité, ce qu'il appelle l'immoralité, l'impudicité, etc., et qui n'admet pas qu'il y ait un coup de balai qui, justement, nous débarrasse de cette racaille. Et effectivement, ça me fait penser à l'histoire de Jonas. Jonas n'admet pas, précisément, que les Ninivites obtiennent le pardon de Dieu. Hein. Il s'enferme, justement, dans une espèce de névrose, de psychorigidité. Alors, vous voyez, Guylaine, je pense que c'est très facile de pétitionner, c'est très facile de défiler dans les rues contre le fascisme. Mais, à mon avis, un littéraire doit le montrer, en fait, le fascisme, il est en nous. Nous avons en nous des pulsions fascisantes, hein, à nous de lutter contre elles. Hein. Mais il faut voir en nous les monstres. Hein. Nous sommes le lieu d'un combat, justement, entre le bien et le mal, en quelque sorte. Hein. Donc, je trouve que il vaut mieux être lucide, voir cela. Hein. Par exemple, combien de personnes sont humanistes, ont des grands idéaux et font ces pétitions dont je parle, etc., signent les pétitions, et puis chez eux, ils vont tyranniser leurs femmes, leurs enfants, hein. Ils vont les dresser, ou si ils n'ont pas de femmes ou d'enfants, ils ont au moins un chien, hein. Un chien, alors ici, au pied, le chien, hein, dressé.
Vous donnez une image de la nature humaine pas du tout reluisante.
Ah, écoutez, je viens d'un milieu catholique, et le catholicisme, c'est Saint-Augustin qui a inventé le péché originel, hein, le péché originel, vous voyez. Donc, l'homme n'est pas naturellement bon, voilà, hein, à la différence de ce que pensait Rousseau. Hein, et je trouve que ce péché originel, comme le disait Carl Gustav Jung, recèle une vérité tout à fait inouïe, vous voyez. Hein. Donc, regardez par exemple des enfants, ils se disputent pour leur jouet, ils se tapent dessus, vous voyez, etc. Donc, voilà. Alors, bien entendu, ce combat qu'il y a en nous, il faut le gérer. Hein, et je dis qu'il faut comprendre les pulsions fascisantes, les pulsions agressives qu'il y a en nous, mais comprendre ne veut pas dire excuser, bien entendu, hein, mais il faut être lucide et voir cela, et le combat devrait être intérieur. On parle aujourd'hui, vous voyez, Guylaine, du djihad, hein. Bien, dans le milieu musulman, on comprend le djihad dans la version populaire, lutter contre les infidèles, les mécréants, les hérétiques, bon, ceux qui ne sont pas musulmans, mais il y a une autre version du djihad que beaucoup de théologiens connaissent, c'est le combat intérieur, hein, le combat combat intérieur. Il faut. Alors, moi, je plaide sur l'intériorisation, justement, de toutes ces choses-là. Voyez, par exemple, la chute de Camus, c'est un récit qui nous montre que toutes ces pulsions mauvaises, hein, existent en nous, hein.
Alors, rassurons les auditeurs, ou rassurons-les pas, je ne sais pas, ce n'est pas tout à fait dans votre livre, tout ça. Hein. Marge du livre, fiction biblique, on est plutôt dans une... On est un peu loin de ces démonstrations théologiques.
Absolument.
Nous sommes d'accord.
Absolument.
Alors, je vous propose qu'on y revienne, et peut-être qu'on reviendra à de la théologie un peu plus tard, mais il y a aussi, on était là dans le procédé littéraire que vous utilisez dans ces marges du livre, et j'ai repéré des textes poétiques, notamment dans celui qui s'intitule « Souffle », et avec les mots suivants, c'est page 102, vous avez cette très belle formule pour moi, la voici. Cela venait de très loin, la nuit respirait comme un flanc de femme, il faut aimer la nuit des yeux, et écouter respirer Dieu. Vent, mémoire, lèvres entrouvertes, tout est souffle. Alors, il y a peu de textes poétiques, il me semble, vous allez peut-être me contredire, mais moi j'en ai pas repéré beaucoup, mais celui-ci en est un très beau.
Si, je fais l'éloge du souffle qui est à la fois le vent, la respiration aussi, c'est la même chose. Hein. Le souffle est essentiel dans toutes les traditions spirituelles. Hein. En hébreu c'est roar, c'est féminin, en grec c'est pneuma, c'est neutre, en latin c'est spiritus, hein, qui est masculin, vous voyez, les genres sont différents. Vous avez par exemple prana en Inde, dans l'hindouisme, vous avez le chi en Chine, tai chi chuan, hein, bon, la voie du souffle, hein, et puis le ki au Japon, aikido, hein, chi, ki, c'est la même chose. Hein. Donc le souffle, c'est une respiration intérieure dont l'image, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas visible, extérieure, pourrait être le vent. Hein. Et dans ce passage, j'ai parlé de mon enfance. Hein. Mmh. Quand j'étais petit, j'allais au collège à bicyclette, et puis je revenais à bicyclette. Je gravissais une côte, hein, au milieu des oliviers et le vent soufflait à travers ces oliviers. Cela m'a marqué pour toujours. Les oliviers, par exemple, je lis, hein, tordu par le vent du nord de mon enfance, quand au retour de mon collège, sous un ciel d'hiver magnifiquement bleu, je luttais contre la côte à franchir à vélo. Là, j'ai eu peut-être l'essentiel. Si je ne le vois pas, maintenant je le revois. Le voyage va commencer, le pèlerinage. Je dis toujours, fermez les paupières, le train va partir, si vous voulez. Je suis né du vent bleu. Hein. Le vent bleu, c'est une épalage pour dire qu'il y a à la fois... l'adjectif bleu est transféré du ciel sur le vent. Mais là, je suis un peu pédant en parlant de figures de style, des noms des figures de style. Il est certain que j'ai connu, et c'est pour ça que je suis gnostique, hein, j'ai connu dans mon enfance des choses essentielles. Après, les choses, subissent l'entropie, c'est-à-dire le refroidissement, la rouille, le temps dévore ses enfants. Chronos, hein, dévore ses enfants. Et donc, mais je pense que ces choses sont en nous et qu'il faut les retrouver, les ressusciter, revenir à cette source intérieure.
Nous reviendrons sur la résurrection tout à l'heure. Je vous propose un souffle musical avec Dizzy Gillespie. Thank you. vous accompagne, Michel Théron, sur FM Plus 91 FM à Montpellier, où nous sommes en train tous les deux de lire votre livre, de le parcourir en tout cas, Marge du livre Fiction biblique, un recueil de textes qui sont écrits à partir ou pour annoncer, ça va un peu dans les deux sens, des versets bibliques. Alors nous avons déjà vu les différentes formes littéraires que vous avez utilisées, mais j'aimerais dans cette deuxième partie d'émission que nous nous arrêtions sur deux textes qui portent deux gros mots théologiques comme titre, transfiguration et résurrection. C'est pas rien quand même d'écrire sur ces deux sujets.
Absolument, de grands mots. Résurrection, ça aussi c'est très autobiographique. Finalement, je règle des comptes avec mon passé dans ce livre. Je règle des comptes entre guillemets, bien entendu. Hein.
Et, donc, littérairement.
Littérairement. Mais ce sont des choses vécues. Hein. Il s'agit d'un être qui est replié sur lui-même, qui ne peut pas s'ouvrir à l'extérieur et qui, à l'occasion d'une nuit d'amour, va être remis dans la vie. Hein. Donc le passé radieux revient vers lui comme une absolution. Il voit maintenant l'enfant qu'il était, qui l'attend, ça c'est la gnose, hein. À ce temps d'autrefois, il s'enfuit, se sauve, et ainsi il est sauvé, il renaît. Et alors je cite après le passage du premier livre des Rois, où Élie ressuscite, en s'allongeant sur lui, un jeune homme qui était mort, hein, la résurrection justement, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, il fut rendu à la vie. Alors bien entendu, je ne prends pas résurrection au sens du symbole des apôtres, hein, la résurrection de la chair au sens de la réanimation d'un cadavre, mais je prends résurrection au sens, mettons, de Cyrulnik, de la résilience, hein, de sursaut, de se redresser. Hein. Voilà. Quant à transfiguration, eh bien, effectivement, j'ai eu ces moments d'illumination qu'ont eu, à en croire le rédacteur évangélique, les apôtres sur le mont Tabor. Hein. Ils ont été sidérés au sens latin. Ils ont vu l'étoile, si douce, hein, l'étoile. Hein. Bon, il y a la tentation de s'arrêter. Hein. Dressons une tente, dit Pierre, je crois, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Parce que sur cette montagne, il y a les trois personnages qui ont été le témoin d'une théophanie. Enfin, bon, Moïse, le buisson ardent, Élie, la petite brise. Hein. Il y a aussi un texte sur Élie dans mon livre. Hein. Et puis Jésus lui-même. Alors Jésus apparaît tout blanc et illumine. Mais après, eh bien, il disparaît ainsi et il n'y a qu'une voix qui descend du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le toujours. Hein, accouété, auton accouété, non pas accoussaté. Hein. Si c'était l'impératif aoris, ce serait écoutez-le maintenant. Mais non, vous avez écoutez-le toujours. Alors les disciples redescendent de la montagne et ils vont cheminer, mais ils ne seront plus seuls. Ils seront avec le souvenir de ce qu'ils ont vu. Et c'est ce souvenir qui donne un avenir dans la vie. Hein. Bon, par exemple, j'appelais taborisme le désir d'être ébloui. Hein. Bon, mais le taborisme ne dure pas tout le temps. Une fois l'étoile disparue, on n'a plus que le désir d'elle. Hein. Si douce, sidération, étoile. Et puis le désir, c'est desiderare. Hein. Désirer, c'est-à-dire avoir perdu l'étoile. C'est la même racine en latin. Hein. Alors la désirer, la regretter. Mais enfin, quand on a le souvenir justement de ce qu'on a connu, eh bien, on n'est plus seul. Par exemple, Guylaine, un beau visage, je ne sais pas ce qu'il en est du point de vue féminin, mais du point de vue masculin, il y a la sidération, justement, produite dans l'esprit de l'homme par un beau visage. Mais la loi du temps est telle que ce visage vieillira, hein. Les rides apparaîtront, etc. Bon, alors, que faire? Alors, au lieu de se plaindre, hein, nous ferions mieux de nous souvenir, justement, de ce visage. Visage tel que nous l'avons vu. Voyez ce que dit Ronsard. Et si pour aujourd'hui vos beautés si parfaites ne sont comme autrefois, je n'en suis moins ravi, car je n'ai point égard à cela que vous êtes, mais au doux souvenir des beautés que je vis. Hein, voyez, c'est-à-dire, si aujourd'hui vos beautés ne sont pas aussi parfaites qu'autrefois, vous voyez, Musset aussi, je me dis seulement à cette heure, en ce lieu, un jour je fus aimé, j'aimais, elle était belle, j'enfouis ce trésor dans mon âme immortelle, et je l'emporte rapporte à Dieu. Vous voyez? Donc, le souvenir, en quelque sorte, nous précède, hein. Donc, nous devons marcher. Nous n'avons plus la vision effective, mais nous avons le souvenir de la vision.
Si je vous laisse parler, on en a pour 2 heures ensemble, Michel Théroux. Alors, donc nous avons sélectionné ensemble, je vous ai proposé de relire quelques textes de marge du livre Fiction biblique, mais vous peut-être, Michel Théron, qui avez écrit ce livre, parmi les 31 textes, lequel est-ce que vous choisiriez, lequel mettriez-vous en avant?
Eh bien, je choisirais le texte qui s'intitule « Chute ». Parce que j'ai écrit contre moi-même, hein. J'ai imaginé qu'un élève, bon, je suis à la retraite maintenant, j'étais professeur en classe d'Hippocagne et de Cagne au lycée Joffre, hein. Et j'ai imaginé qu'un élève m'écrirait, hein, pour me reprocher d'avoir détruit en lui une naïveté originaire, hein. Et finalement, c'est une question qui m'a beaucoup préoccupé, et même encore, hein. La lucidité que je leur enseignais, est-ce que c'était une bonne chose? Vous voyez, j'imagine ce que dit mon élève, hein, car vous avez flétri toutes nos illusions. Alors, il s'appelle un monsieur le professeur, hein, vous avez flétri toutes nos illusions. Certes, nous étions petits et jeunes, mais quel droit aviez-vous de nous arracher à cette jeunesse? Pourquoi aussi ce pessimisme que vous affichiez? Je répète que c'est au moins ainsi que nous l'avons ressenti à l'époque. Nous a-t-il ainsi perverti. Quel plaisir à retransformer nos carrosses en citrouilles. On pleure parfois ces illusions avec autant de tristesse que les morts. Perdus dans la forêt des doutes, nous les avons semés comme un enfant abandonné à semer ses petits cailloux. Mais retrouverons-nous finalement le chemin? Alors, vous voyez, Guylaine, là, il y a une intertextualité évidente. Le petit poussé qui sème ses cailloux, oui, hein, en pleure ses illusions avec autant de tristesse que les morts. Je crois que c'est dans une vie de Maupassant. Je l'ai pas dit, mais enfin, voilà. Quoi qu'il en soit, est-ce que j'ai été fondé, quand j'étais professeur, à montrer aux élèves que les choses n'avaient de prestige que celui que nous leur donnions, que le prestige venait de nous, en quelque sorte, hein. Donc, est-ce que j'ai bien fait? Alors, j'ai appelé ça chute, et j'ai imaginé que mon élève m'aurait dit à la fin, un souffle nous portait que vous avez détruit. Certes, il avait pour lui la simplicité, mais il avait l'évidence, tandis que vous avez tout embrouillé en semant en nous l'indécision, et peut-être que ce blasphème-là ne sera point pardonné. Alors là, j'ai cité la phrase biblique, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Ou bien quiconque entraîne la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le précipite dans l'abîme de la mer. Mmh. Vous voyez, Guylaine? Donc, j'ai écrit contre moi-même, voilà, hein. Bon, est-ce qu'il est bon, hein, de détruire des illusions? En y réfléchissant, d'ailleurs, dans le passage que j'ai lu, l'élève dit, ce pessimisme que vous affichiez, il dit entre parenthèses, je répète que c'est au moins ainsi que nous l'avons ressenti à l'époque. Peut-être que après, il aura changé, cet élève, vous voyez, et qu'il aura vu que l'important, finalement, même si la lucidité détruit une certaine naïveté, hein, il est préférable, justement, de ne pas être aveuglé pendant toute sa vie. Et là, j'ai pastiché en quelque sorte la fameuse lettre au père que Kafka avait rédigée, hein, et pour l'adresser à son père. Et quand il dit que son père était méchant, mettons entre guillemets, il dit c'est ainsi que je le sentais à l'époque, voyez. Donc peut-être que maintenant il aura changé, voyez.
Peut-être. Il faudrait entendre l'élève.
Il faudrait entendre l'élève, comme il est fictionnel, comme je l'ai inventé, hein, mon ancien élève. Mais je me souviens que mon ami André Gounel disait qu'il avait rencontré un de mes anciens élèves qui devait faire des études pour être pasteur, et que cet élève lui avait dit, ben, les cours de M. Théron étaient brillants, mais quel pessimiste il était, vous voyez. Alors, en fait, je suis pessimiste en bon gnostique, puisque je pense que tout est promis à l'entropie, comme je l'ai dit, ou au refroidissement, mais c'est conjurable, cette chute est conjurable, ne serait-ce que par les souvenirs émerveillés de l'enfance.
Merci, un grand merci à Michel Théron pour ses fictions bibliques publiées aux éditions BOD. vient de sortir aussi chez le même éditeur La Source Intérieure, préfacé par André Gounel, que vous venez de citer. Et alors, on se verra bientôt, alors, Michel Théron.
Ah, ben avec grand plaisir.
Au revoir.
Au revoir à tous.